soir, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire propose la suppression de l'examen d'État. Steve Mikai évoque notamment comme cause la baisse sensible du niveau des élèves qui viennent du secondaire pour l'université. Il propose par exemple que chaque école puisse avoir son diplôme d'État au cycle secondaire après un test de qualité. Cette suggestion du ministre de l'ESU intervient au lendemain de la clôture la semaine dernière de la session 2018 de l'examen d'État. Comment analyser cette proposition du ministre de l'ESU? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois M. le ministre Steve Mikai. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Jean Bosco Pouna, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles catholiques de la RDC. Professeur Massial Amassolo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes professeur de psychologie à l'UPN et à l'UPC. Vous êtes ministre honoraire de l'Éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans le sommaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire propose la suppression de l'examen d'État. Dans une interview à Radio Capi, Steve Mikai avance notamment comme raison que l'examen d'État est caractérisé par la fraude et corruption qui ont pour conséquence la baisse du niveau intellectuel des élèves qui proviennent du secondaire. On l'écoute.
C'est parce que je suis ministre de l'ESU, je constate que les enfants qui viennent pour être inscrits dans nos universités n'ont pas du tout de niveau. Alors quand ils ont des diplômes obtenus avec 80%, 110%, ainsi de suite, cela est dû à la fraude généralisée dans laquelle sont impliqués beaucoup de gens, les parents, les écoles, les élèves, ainsi de suite. Alors je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir cet examen qui coûte très cher à l'État pour produire des enfants qui n'ont rien en tête. Voilà pourquoi je lance une réflexion qui nécessite qu'il y ait les états généraux de l'éducation nationale pour pouvoir statuer sur la question de la baisse du niveau, notamment à partir de l'école primaire, secondaire, jusqu'à l'université. Il faudrait supprimer ça et puis laisser chaque école donner son diplôme de fond de cycle secondaire, mais avoir un test sérieux d'entrée à l'université qui est fait par un bon organisme crédible.
C'est pratiquement une remise en cause du système éducatif congolais dans son ensemble.
Et absolument, parce que tout le monde est d'avis que le niveau a tellement baissé.
Voilà, Monsieur le ministre Steve Mikai, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous venons de vous suivre. Quelle est l'opportunité d'une telle réflexion faite à haute voix?
D'abord, il faut dire, je n'ai pas dit que chacun va donner son diplôme d'État. Il est d'État quand il est livré par l'État congolais. Mais ici, je dis que ce n'est qu'une hypothèse. Chaque école pourrait délivrer son diplôme de centre du secondaire. Il devra être certifié avant que l'enfant ne puisse aller au supérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles sérieuses, mais la plupart ne sont pas sérieuses. Mais tous les enfants ont le même diplôme, mais qui n'ont pas le même niveau. Ce qui fait qu'environ 80% de ces enfants ne méritent pas ce diplôme. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une idée qu'on peut approfondir dans l'état général de l'éducation. Parce que le niveau, à tous les niveaux, a baissé, que ce soit à l'école primaire, ça commence par là. Les enfants finissent l'école primaire sans savoir lire ni écrire. Ils vont comme ça au secondaire, ils passent de classe en classe, puis ils finissent l'école secondaire par la fraude. Ils vont à l'université, ils vont à l'UPEN, ISP, ils deviennent des enseignants. Donc c'est un cercle vicieux. Donc je veux qu'on s'arrête et qu'on fasse un débat national pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation.
Monsieur le ministre, je reviens à ma question. Quelle est l'opportunité d'une telle réflexion en ce moment?
Non, mais l'opportunité, c'est de pouvoir remettre le système en cause parce que ça démontre les limites. 50 ans après l'examen d'État, il faudrait qu'on puisse voir si réellement aujourd'hui, ça vaut la peine ou pas. Pendant ce débat, il y aura d'autres idées. On peut voir laquelle sera meilleure pour que nous puissions arriver à corriger. Mais au moins, ce qui est certain est que le niveau a tellement baissé. Ce qui est certain que la fraude est vraiment à grande échelle. Que faire pour, n'est-ce pas, remédier à ça? Voilà l'opportunité.
Monsieur le ministre, il y a Peter Winda qui nous écrit de Dissangui qui dit la proposition faite par le ministre de l'ESU est conflictogène car elle ne répond pas aux attentes de la population, moins encore une piste de solution pour redorer l'image de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire en RDC. En faisant cette déclaration, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire remet en cause les efforts consentis par son collègue ministre de l'EPSP pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement tant au niveau primaire que secondaire, monsieur le ministre.
Non, ce n'est pas un problème du ministre de l'EPSP. Comme j'ai dit, c'est un problème qui date de plusieurs années. Et d'ailleurs, pour corriger ça, il faudrait une concertation entre moi, mon collègue de secondaire, et l'autre formation professionnelle, pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Ce n'est pas une affaire d'un secteur. Le constat est généralisé. Même à l'université aujourd'hui, la plupart des gens qui finissent l'université, eh ben, ils n'ont pas tellement la capacité voulue. Donc, je voudrais bien que nous puissions traiter de la question de façon impersonnelle. Ça ne concerne pas une personne, mais c'est une affaire généralisée par rapport à la baisse du niveau.
Alors, monsieur le ministre, pour vous, qu'est-ce qui est à la base de cette baisse du niveau des élèves, tant au primaire qu'au secondaire?
Non, les raisons, en tout cas, elles sont multiples. Il y a beaucoup de raisons. Mais parce que je parle des Américains, il y a notamment la fraude qui est organisée. Parce que le système des Américains est très, très bien conçu. Mais c'est la fraude qui vient annuler tout. Et puis au niveau aussi de l'école primaire, les parents sont aussi complices. Ils veulent plus que leurs enfants reprennent de classe. Quand un enfant a échoué, eh ben, le parent préfère changer d'école et aller passer dans une classe supérieure ailleurs. Et à tous les niveaux, c'est ça le problème. Ce qui est vrai est qu'il y a un problème sérieux qui mérite qu'on puisse s'asseoir pour en discuter. Si ce n'est pas supprimer les examens d'État, mais on peut chercher une autre alternative. Que faire pour que nos enfants aient des diplômes bien mérités?
Alors, en ne parlant que de l'examen d'État, monsieur le ministre, est-ce qu'il ne s'agit pas là des conséquences au lieu de voir d'abord les véritables causes?
Mais écoutez, moi, dans des causes. Quand je parle de la fraude, ben c'est une cause. Il y a le problème, par exemple, aussi des budgets que nous allons, État, donner au niveau de...
Monsieur le ministre Steve Mvikaye? Voilà, je crois qu'on a quelques soucis avec la ligne du ministre. La réalisation va tenter de le retrouver. Jean Bosco Pouna, vous êtes secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques de la RDC. Comment vous analysez cette réflexion du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire?
Oui, merci beaucoup de l'opportunité que vous nous accordez. Eh bien, nous avons suivi le ministre, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, mais il faut dire que nous étions abasourdis. En tant qu'enseignants, nous sommes très déçus de la déclaration que le ministre a faite, parce que ce que nous aimerions d'abord dire au départ, c'est que le ministre Mbikaye est gestionnaire du système éducatif. Et donc... lorsque nous considérons la loi cadre, le ministre est lié par une solidarité gouvernementale, j'imagine. Et une telle réflexion, si elle est faite à haute voix et telle que le ministre le fait, ça décourage non seulement les élèves, mais tous les partenaires qui amènent, qui apportent quelque chose dans le système éducatif. Il est vrai que dans sa déclaration, nous avons épinglé trois éléments constitutifs. Il y a d'abord la critique qu'il fait à l'examen d'État. Le deuxième élément, c'est la proposition de la décision qu'il formule, celle de la suppression de l'examen d'État. Tout à l'heure, je viens de le suivre, il y a quelques correctifs qu'il apporte. Je crois que lui-même, il comprend que c'était une déclaration trop osée. Et troisièmement, nous nous rendons compte qu'il a fait des propositions, notamment des États généraux. Mais lorsque nous prenons la première partie, il parle de la baisse du niveau des élèves. Et quand on lui pose la question de relever les raisons, eh bien, il va à la fraude au moment où les vrais problèmes de l'éducation sont connus. Donc, la baisse du niveau des élèves, la baisse du niveau des étudiants, eh bien, cette baisse a pour véritable raison le faible financement de l'éducation, du système éducatif congolais. Donc, de ce point de vue-là, je crois que tous les partenaires partagent la critique. Les élèves n'ont plus de niveau. tous les partenaires, que ce soit le ministre tel qu'il l'a dit, que ce soit les parents, les enseignants, nous tous, nous savons qu'il y a un véritable problème. Mais là, si nous allons plus loin, nous allons remonter vers l'État. Mais là où il parle de la suppression de l'examen d'État, alors, c'est ce qui nous laisse perplexes, ça va décourager les élèves qui ont terminé l'examen d'État. Il faudrait que je rappelle ici que dans le processus éducatif, vous avez des étapes. La première étape de notre processus éducatif, c'est la programmation. C'est là où on définit le contenu de l'enseignement. Mais lorsque le professeur, le maître a le contenu de l'enseignement, c'est-à-dire le programme, eh bien, il doit aller enseigner et c'est l'étape de la facilitation. C'est-à-dire que le maître est dans la salle des classes, il facilite les enseignements pour que les enfants puissent assimiler les matières. Mais enfin, quand il a terminé, il doit évaluer. Et donc les évaluations, nous les faisons à tous les niveaux. Mais l'évaluation la plus prestigieuse que nous ayons dans le système éducatif congolais, eh bien c'est l'examen d'État. C'est une évaluation de prestige, une évaluation certificative. C'est-à-dire, quand l'élève termine les humanités, il doit avoir un parchemin, il doit avoir un diplôme.
Mais est-ce que cet examen d'État, finalement, n'a pas montré ses limites, comme le dit le ministre Mbikaï?
Nous disons que le ministre n'a pas tort de dire qu'il y a des faiblesses au niveau de l'examen d'État. Mais est-ce qu'on peut, à la fin de l'examen d'État, dire qu'il faut supprimer l'examen d'État, il faut jeter un discrédit sur les diplômes. Nous avons déjà des problèmes avec les élèves qui terminent les humanités. Vous savez que quand un élève a un diplôme, c'est pour qu'il puisse soit travailler, soit continuer les études, donc aller à l'université. Mais l'université, ce n'est pas simplement en République démocratique du Congo. L'élève peut sortir et aller ailleurs pour poursuivre les études. Et là, il complique davantage la situation des élèves qui sont en dehors de la République démocratique du Congo lorsqu'il prend une telle position, parce que c'est une position qui sera directement récupérée par tous nos partenaires, et je crois que c'est une position que nous n'approuvons pas.
Et donc, si je vous comprends, le ministre a raison de crever l'abcès d'une situation qui n'a que trop duré, mais que le moment serait mal choisi.
Mais quel est le cadre, lui, en tant que ministre? Quel est le cadre qu'il utilise pour pouvoir faire cette remarque, cette critique? Parce que ce n'est pas nouveau. Et même quand il va dans la proposition États généraux, les États généraux ont déjà été tenus. Vous vous souviendrez, à la CNS, le problème de l'éducation avait été abordé. On avait pris des principes, des orientations, des choix clairs pour pouvoir repenser le système éducatif congolais. Et cela avait été précisé en 1996 lorsqu'on avait tenu les États généraux de l'éducation. Malheureusement, toutes les résolutions sont dans le tiroir et donc ils ne proposent rien de neuf. Ce sont des résolutions qu'il faut simplement actualiser pour que nous ayons un système éducatif compétitif. Là où nous ne sommes pas d'accord, que de dire qu'on supprime une évaluation importante comme l'examen d'État, alors là, je pense que le ministre doit vraiment revoir les choses. Merci. Parce que ça ne peut pas se faire comme ça.
Monsieur le ministre Steve Mbikaï, vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Merci beaucoup. Alors, il y a Ferdinand Kiandemina qui nous écrit de Goma dans la province du Nord Kivu, qui dit ce n'est pas vraiment correct de la part du ministre national, en ce sens qu'il est en train d'exposer la faiblesse de tout un pays aux yeux du monde. Il veut s'attaquer au problème à partir de la tête au lieu de voir la genèse de ce fléau. Tenez, l'enseignement est le cadet des soucis du pouvoir en place. Les enseignants sont on ne peut plus clochardiser, ce qui conduit au monnayage de points par ces enseignants qui dépendent de la prime donnée par les parents, monsieur le ministre.
Bon, ce qui est vrai, que tout le monde est d'avis qu'il y a un problème. Tout le monde est d'avis que le niveau a baissé et qu'il faut des solutions. Alors, si je peux peut-être, je suis peut-être allé plus loin en donnant la suppression, c'est pour qu'on puisse en débattre. Et tout est parti d'un tweet que j'ai lancé par rapport à cette question et tout le monde a voulu comprendre ma pensée. Et j'ai continué à affirmer qu'il faut nécessairement qu'on puisse revoir le problème. Vous savez, j'ai causé avec un ambassadeur parce qu'on négocie l'envoi de quelques étudiants congolais sur des travaux à l'étranger pour nous importer la technologie. Mais il m'a dit que la plupart des gens qu'on envoie avec des bourses échouent, même ceux qui ont eu 80%, 70%, ainsi de suite. Voilà pourquoi je pense qu'il faudrait que nous puissions remédier à cette situation et je n'accuse personne. Que la société tout entière.
Monsieur le ministre,
oui.
La qualité de votre ligne a tendance à se dégrader. On vous capte un peu difficilement. Le temps de donner la parole au professeur Massiala, je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Massiala Masolo, vous êtes professeur de psychologie à l'UPN et à l'UPC, ministre honoraire de l'éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État. Professeur, comment vous analysez ce débat lancé sur la place publique par le ministre de l'ESU?
Bon, je signe et j'insiste sur le fait que dans le monde entier, si vous voulez tuer un pays, il faut commencer par son système éducatif. Et ça pourra se démontrer ici. Mais je ne veux pas dire que ce sont les parents, ce sont les enseignants, que ce sont les préfets qui tuent le système. Parce qu'il y a notre aîné. Il est reparti, le père est quoi, qui a voulu interroger dans son livre l'école trahie, ce qui était le principal accusé. Et il a conclu par nous dire que c'est tout le monde qui est concerné. Tous les acteurs au système sont concernés. Et j'étais parmi ceux qui ont conduit les travaux des États généraux d'éducation depuis le 20 mai 1995 jusqu'au 29 janvier 1996. C'est-à-dire qu'au Mayor et beaucoup d'autres partisans dans le domaine de l'éducation étaient à Kinshasa. C'était la fierté de tout le monde. Malheureusement, aussitôt terminé ces travaux, qui n'ont pas concerné seulement l'examen d'État, qui a concerné tous les systèmes, y compris la loi cadre. Une loi cadre vient d'être révisée et offerte à la République, mais son application pose un problème jusqu'à aujourd'hui. Hein? On constate la faiblesse des inspecteurs, on constate la faiblesse des enseignants eux-mêmes, et je peux dire qu'aujourd'hui on constate également la faiblesse des ministres qui vont collecter l'argent dans les établissements, par leurs structures, par leurs hommes qui travaillent, et faiblesse également de la part de l'État, qui ne met pas à la disposition de l'acte éducatif les moyens qu'il leur faut. N'est-ce pas? Donc, et les élèves eux-mêmes, je crois qu'ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage, mais ils veulent tous réussir. Réussir pourquoi? Pas pour aller travailler, mais réussir pour aller à l'université. Or, dans le monde où je circulais dans beaucoup de pays, j'ai constaté qu'il y avait toujours deux orientations au système éducatif. Il y a l'orientation apprentissage et il y a l'orientation littéraire. Ceux qui font l'orientation littéraire vont à l'université. Et il y a beaucoup de chances qu'ils réussissent avec la présomption qu'ils ont examen d'État, parce que c'est un standard. C'est un standard qui a été mis en place après une longue observation. Et je suis deuxième promotion de l'examen d'État 1968. Et j'ai enseigné à l'école secondaire, j'ai enseigné à l'université. Ça fait 50 ans que j'enseigne,
professeur.
Que j'observe, que je réfléchis sur le système éducatif.
Professeur.
Alors, quand c'est l'État lui-même qui accuse, peut-être sans avoir pris suffisamment de temps pour organiser les principaux acteurs, l'éducation, c'est une difficulté, c'est dangereux.
Professeur,
je ne suis pas syndicaliste,
professeur,
je suis enseignant, je suis chercheur.
Professeur, 50 ans oui. Après, est-ce que cette évaluation n'a pas montré ses limites?
L'évaluation a montré les limites, et c'est comme cela qu'en 74, non, 94, pardon, quand le pouvoir m'avait nommé à l'EPSP, bon, peut-être c'est difficile de le dire, mais il faut quand même dire ça, l'honnêteté intellectuelle oblige. Le système de correction à l'ordinateur, ça c'est moi qui avais suggéré, parce qu'il y avait une chambre de machine à l'EPSP qui n'était pas utilisée. Nous avons essayé, et j'avais beaucoup de flèches de la part des inspecteurs. Alors j'ai compris qu'il y avait quelque chose de formidable dans ce système, l'examen d'État. Vous voyez? Mais que ce soit un ministre qui le dit à haute voix et en dehors des organes, c'est ça qui pose problème, parce que le chef reste le chef, il ne peut pas se dévaluer.
Professeur...
Néanmoins, j'ai suggéré depuis quelque temps à des collègues, à des amis, qu'il faudrait qu'on s'assoie. Vous voyez, c'est le détonateur, chez moi, c'était cette position au sein de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de deux ministères. Et ceci à la fin de l'année scolaire. C'est terrible. C'est un scandale.
Merci, professeur.
Tous les anciens ministres et les PSP se sont levés et nous avons écrit une note assez osée à M. le Premier ministre pour dire de sursoir
Merci,
et de
professeur.
Convoquer un conclave.
Merci, professeur. Je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur le ministre Steve Mbikaï, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne.
Voilà. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Vietnam.
Je suis Blaise Pascal Zirimwabagabo-Migabo, du Congolais, résident dans la ville d'Ho Chi Minh, au Vietnam. L'organisation de l'examen de CNRDC permet à la RDC d'être reprise dans le système de la classification internationale type de l'éducation qui a été mise en place par l'UNESCO. Cette classification facilite la mobilité des écoliers et des étudiants dans différents pays. Et l'examen d'État tel qu'organisé en RDC correspond au baccalauréat organisé dans plusieurs pays francophones ou encore au diplôme de maturité qui est organisé dans plusieurs pays européens. Ce sont tous des examens nationaux. Les diplômes sont délivrés après un test national qui permet de renforcer la crédibilité de ces diplômes et des systèmes éducatifs. Je pense que supprimer l'examen d'État, qui est un examen national, pour le remplacer par un simple diplôme délivré par l'école, comme le ministre l'a proposé, quand on sait les traces susceptibles d'avoir lieu à ce niveau en RDC, je pense que cela va affecter négativement la crédibilité internationale du système éducatif congolais, qui était jadis apprécié sur le plan international.
Monsieur le ministre, concernant les diplômes que devraient octroyer les écoles, vous avez clarifié vos propos en précisant que vous souhaiteriez qu'il y ait un organisme crédible qui puisse délivrer ces diplômes. Quelle pourrait être cette structure selon vous?
Je pense que ce qui est vrai, je ne m'attaque pas au diplôme d'État. Je parle de l'examen d'État. Je parle de la fraude qui est organisée par les écoles.
L'examen d'État qui est la conséquence, le diplôme d'État qui est la conséquence de l'examen d'État.
Oui, oui. Il y a les écoles qui font bien leurs enfants, qui sont sérieuses. Il y a par contre les écoles moins sérieuses, elles sont nombreuses, et qui passent par des voies détournées pour que leurs enfants aient des diplômes d'État. Alors, il faudrait ces écoles-là les bloquer. Parce que quand une école a délivré un diplôme, mais qui, au final, n'est pas certifié pour que l'enfant puisse accéder à l'université, les parents ne vont plus aller vers ces écoles. Ils vont envoyer les enfants vers les écoles crédibles dont les diplômes seront facilement homologués. Mais comme j'ai dit, c'est une hypothèse que j'avance. Lors du débat, on va ensemble se mettre d'accord sur comment faire. Est-ce qu'il faut maintenir les examens d'État? Que faire pour, n'est-ce pas, supprimer la fraude qui est à la base de ce que je déplore? Donc c'est un débat qui est lancé, il faut en discuter, on doit pas s'en cacher. Dans chaque pays, on peut, même en France, un débat a été lancé pour supprimer éventuellement le somme des ventes baccalauréat français. Donc chaque société peut s'arrêter une fois, faire l'autocritique et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système. Et si on n'attaque personne, tout simplement, on attaque la fraude telle qu'elle est organisée à ce niveau-là, et tout le monde est d'avis que le niveau a baissé. Le professeur qui a parlé, il est la deuxième promotion de l'année d'État. À l'époque, un enfant qui avait 100% de l'année d'État était un enfant très intelligent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On voit un enfant avec 110%, 80%, mais qui n'a rien en tête. Donc, nous devons nous interroger et corriger.
Monsieur le ministre, Jean Bosco Puna, syndicaliste de son État, enseignant également, a relevé le fait que la cause pour lui, c'est le faible financement du système éducatif congolais. Est-ce que la faute n'incombe pas en grande partie à l'État congolais?
Non, l'État congolais ne refuse pas de financer. Il se pose parfois un problème. Il dit que nous avons, il est de combien? l'État a affaire à plusieurs domaines qu'il faut financer. Mais c'est vrai que cette réforme nécessite beaucoup de moyens. Parce que, même à l'université aujourd'hui, beaucoup d'universités reçoivent les enfants sans niveau parce que ces enfants sont considérés comme des clients. Le jour où l'État aura le moyen de subventionner les universités, même privées, à ce moment-là, ils ne pourraient pas prendre les enfants comme clients afin qu'ils puissent les universités. Donc, la question est tellement complexe qu'il faut voir toutes les facettes et il faut en tout cas s'asseoir pour en discuter.
Le professeur Massiala Masolo, qui a parlé tout à l'heure, a dirigé les États généraux de l'éducation nationale. Il y avait des très bonnes recommandations qui sont restées dans les tiroirs. Que faut-il de plus, sinon dépoussiérer celles qui ont été déjà faites et les actualiser?
Mais par exemple, on peut faire l'évaluation. Si par le passé, il y a eu des recommandations très bonnes qui n'ont pas été appliquées, eh bien, on doit se savoir comment les appliquer. Le problème est que tout le monde est d'avis que ce que j'ai dit est vrai. Mais tout le monde doit comprendre qu'il faut crever la pied et il faut changer. Parce que le chef de l'État a dit qu'on devra être plus émergent à l'horizon 2030. Mais c'est avec le cadre est bien formé. S'il n'y a pas des gens bien formés, comment on va y arriver? Parce que c'est catastrophique. Je l'ai dit en tant que consommateur des diplômés d'État dans les universités. Quand je vais consulter, quand j'interroge, je connais les enfants, je me rends compte qu'il y a un problème très sérieux qu'il faut résoudre.
Et, Monsieur le ministre, que répondez-vous à Alidor Kapoukou qui dit qu'on supprime également les universités car il y a des faux docteurs et des faux licenciés, la corruption et la fraude, c'est partout en RDC?
J'ai bien dit que nous devons repenser nos systèmes éducatifs à tous les niveaux. Je ne défends pas un niveau. Je dis que ça pose des problèmes à tous les niveaux. Il faut qu'on puisse en discuter pour y trouver des solutions idoines.
Merci, monsieur le ministre.
À côté de ça, il y a tout de même les gens qui sont bien formés. Il y a les bonnes universités, il y a les bonnes écoles primaires et secondaires, il y a aussi des écoles pour rire. Il faudrait qu'on arrive à bloquer ces écoles pour qu'elles ferment d'elles-mêmes des portes.
Merci, monsieur le ministre. Jean Bosco Pouna, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Kassai central.
Oscar Kabouya, à partir du Kassai central, la ville de Kananga. Je suis d'accord avec cette proposition du ministre de l'Issue, d'une part, en ce sens que, dans un pays comme le nôtre, si on veut bien le détruire, on s'attaque directement au système éducatif. Comment pouvez-vous expliquer que dans deux jours, avant le lancement de ces épreuves nationales, les examens commençaient déjà à circuler dans la brousse par le biais de quelques autorités éducationnelles? D'autre part, que le ministre s'attaque évidemment aux causes et non plus aux conséquences, d'autant plus que les causes sont multiples, notamment le mauvais traitement des enseignants, le tribalisme, l'incompétence de certains personnels.
J'ajoute, Jean Bosco Pouna, cette réaction de Steve Liloku Bomba qui dit « Je soutiens son excellence Steve Mikai pour le simple fait que la classe de 6e est devenue presque une classe où les enfants n'étudient pas. Ils ne prennent beaucoup de temps qu'à chercher l'argent pour donner au chef d'établissement qui demande des frais exorbitants par rapport aux frais fixés par l'autorité juste pour les laboratoires.
» Oui, Alain, je crois que le ministre est en train de faire du recul. C'est une bonne chose parce que ce que nous n'avons pas approuvé, qu'on dise que l'évaluation doit être supprimée. Et aussi, lorsque c'est fait comme ça, à la place publique, il y a des conséquences sur nos élèves. Alors, maintenant, si nous revenons sur l'aspect de la corruption, il y a les ministres qui condamnent tout ce que nous vivons. Nous savons, nous tous, qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation de l'examen d'État. Mais il faut aussi savoir que l'examen d'État a été institué par une ordonnance présidentielle. Et donc, toutes les mesures de sécurité sont là. Malheureusement, ce sont des mesures de sécurité qui sont sapées aujourd'hui parce que lorsque vous prenez, par exemple, les mesures de sécurité. Les personnes chargées de la garde des items doivent être des personnes véritablement crédibles. Garde des items, impression et transport des items, la passation et la surveillance des épreuves de l'examen d'État. En fait, la loi a sécurisé l'examen d'État. Mais ce que nous voyons sur terrain, évidemment, il y a des problèmes. Malheureusement pour nous, lorsque le débat est posé tel qu'il est posé aujourd'hui, eh bien, ça nous pose véritablement des problèmes. Que dire, par exemple, au niveau de l'université, des TFC? Voyez-vous qu'il y a des chefs de travaux qui écrivent des travaux de fin de cycle pour leurs étudiants. Et même au niveau de soutenance à l'université, nous avons les phénomènes à Longuinaï. Donc, vous comprenez que vous ayez bien défendu ou pas, eh bien, l'étudiant passe. C'est un système caractéristique de notre société, et il est vrai, comme le dit le ministre, nous devrons nous mettre autour d'une table pour pouvoir repenser, pour pouvoir corriger. Parce que même à l'université, les tares sont là. L'étudiant commence la première année graduée, jusqu'en licence, il termine la licence, mais il n'a aucun contenu. Mais finalement, on lui donne un diplôme. Donc moi, je crois que peut-être que le ministre s'y est mal pris, et s'il fait un recul, ça pourra arranger tous les intervenants, tous les acteurs au niveau de notre système. Parce qu'il faut également dire ce que le ministre de l'ESSU n'a pas dit, c'est que tous les systèmes d'enseignement reposent sur les parents, de la maternelle jusqu'à l'université. Et je crois qu'aujourd'hui, dès lors qu'il pose les problèmes, il faut absolument que nous ayons toutes les bonnes volontés pour actualiser les résolutions qui avaient été déjà prises, et ça ne fera que du bien à notre système d'enseignement.
Le professeur Massial a dit que tous les acteurs du système éducationnel sont concernés par la baisse, sont à la base de la baisse du niveau de l'enseignement tant décrié. Mais qu'est-ce qu'on attend pour prendre à bras le corps cette question?
Oui, mais le ministre Massial a été ministre de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il a arrangé? Vous comprenez, c'est une question que nous devons nous poser. C'est-à-dire que l'État, pouvoir organisateur de l'enseignement, a failli. On a instrumentalisé l'éducation par la politique. Voilà les conséquences. Bon, maintenant que nous tous, nous nous rendons effectivement compte que l'école congolaise, de la maternelle à l'université, est mauvaise, il faut absolument que nous puissions nous mettre autour d'une table et nous dire, bon, voilà comment nous allons repartir. Et là, nous, en tant que syndicat, nous mettons d'abord l'État en avant-plan, parce que c'est lui le pourvoyeur des moyens. C'est lui qui doit mettre les moyens à la disposition du système pour que les produits qui vont sortir puissent être des produits de qualité. Vous savez, au recrutement, nous avons nos inputs, vous recrutez les élèves, mais quelle est la qualité des élèves et des étudiants que l'on recrute pour qu'à la fin, que nous puissions avoir des produits qui puissent participer demain à un système compétitif. Voilà tous les problèmes. Donc, il faut absolument que les partenaires ne se jettent pas la balle tel que le ministre a voulu le faire. Il faudrait absolument que nous puissions étudier froidement la question en vue de pouvoir envisager des solutions. Parce qu'ici, il faut plaider et pour les élèves et pour les parents qui ont déboursé beaucoup d'argent. Mais quand un discours venant d'une autorité, d'un gestionnaire du système éducatif vient les bouleverser, alors vous voyez qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer.
Très brièvement, Jean Bosco Puna, Dube Mwenemboka de Beni, au nord qui vous dit, je pense que le ministre Mbikaï a raison, car l'exéta n'est qu'une formalité aujourd'hui. Mais alors, si on arrive à sa suppression avec les mêmes acteurs, dans les mêmes conditions, rien ne changera.
Rien ne changera, c'est vrai, mais je pense personnellement que le ministre a parlé de la formation des enseignants, c'est vrai, nous avons des problèmes, mais il faut avoir le courage. Le professeur a fait allusion à l'école trahie du père et quoi. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de propositions qui avaient été faites, mais il faut que nous ayons une volonté commune de pouvoir aller de l'avant, parce que c'est notre société.
Professeur Massiala, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la province de Lualaba.
Rémi Kalombo, j'appelle depuis Kolwezi dans la province de Lualaba. Moi, je ne partage pas l'avis du ministre de l'Enseignement supérieur lorsqu'il parle qu'il faudra éliminer les épreuves de l'examen d'État. Par contre, je suis d'avis à ce qu'on puisse donner plus d'efforts et de moyens à la base, parce que la formation d'un élève, c'est l'école primaire. Dès lors, l'enfant rate l'école primaire, en tout cas, il perd le tout. C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'il faudra donner beaucoup de moyens, qu'on y mette beaucoup d'efforts à l'école primaire, qui est la base. Si nous regardons bien, la plupart de nos parents qui ont eu comme formation dans le passé, c'est la formation de l'école primaire. Mais ils réfléchissent comme des universitaires d'aujourd'hui, voire même plus.
Professeur Massiala.
Oui.
Alors,
je ne crois pas avoir bien compris.
Alors, il propose qu'il y ait beaucoup de moyens qui soient octroyés, notamment à l'enseignement primaire, qui est la base du système éducatif. Et il pense que nos parents, vous, nos parents, qui à l'époque, pour la plupart, ne vous étiez arrêtés qu'à l'école primaire, vous aviez un niveau plus élevé que certains universitaires aujourd'hui.
Bon, moi, je me suis pas arrêté à l'école primaire. J'étais élève régulier à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'Ovanium avant d'aller en Europe pour la thèse de doctorat. Le moyen, ce n'est pas seulement ça. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs acteurs au système et qu'il faut intéresser. Je pense que je suggère maintenant, et ça me vient à l'esprit, il faut appeler le professeur Kazadi. Il est à l'UNESCO à Paris. Et c'est lui qui a traduit chaque proposition de décision prise aux États généraux d'éducation en acte opérationnel. Et nous avons obtenu 100 000 dollars. À l'époque, 100 000, c'était beaucoup d'argent pour faire ce travail. Et le professeur a travaillé pendant une année. Malheureusement, il a été supplanté par l'arrivée à Kinshasa, ce qui est arrivé en 97, vous savez.
Professeur.
Et ce qui était nommé à l'éducation nationale, on balayait par le revers de la main tout ce travail mené sur l'ensemble du territoire national et sur l'ensemble du système. Et c'est là qu'ils ont retrouvé le partenariat et d'autres propositions qui ont été faites.
Professeur,
c'est galvaudé, c'est mal utilisé, c'est vraiment jeté dans la poubelle.
Professeur,
donc ce ne sont pas les décisions qui manquent dans ce pays, mais leur application.
Professeur, le ministre Mbikaï propose la mise en place d'un ministère de l'éducation nationale. Quel est l'avantage d'avoir un tel ministère, professeur, en lieu et place de la configuration actuelle? Était-ce une question simplement de nomenclature ou une hiérarchisation efficiente?
En 2001, une fois à l'EPSP, deuxième fois à l'enseignement supérieur universitaire comme le ministre Mbikaï. Bon, lui, il n'a pas la recherche scientifique ses attributions. Moi, je veux ça. Donc, c'est toujours des va-et-vient. J'étais dernière promotion de septième primaire en 1962. Aujourd'hui, on est revenu à cela. Comme si le nombre d'années était une magie qui pouvait transformer les mentalités. Il faut la volonté, cultiver la volonté chez l'enseignant, chez le préfet, chez le ministre, chez tout le monde qui s'occupe de l'éducation. Parce que c'est noble, très noble. Et si vous négligez l'éducation, vous négligez l'agriculture, vous négligez la santé, eh bien, c'est tous les pays que vous tuez.
Professeur,
nous sommes en train d'assister à une souffrance généralisée maintenant, surtout maintenant.
Professeur, est-ce que vous sentez une volonté politique en ce moment pour relancer le système éducatif congolais?
Bon, il y a eu un effort parce que le chef de l'État a promulgué la loi cadre. C'est depuis longtemps que nous travaillons sur la loi cadre, mais elle venait d'être promulguée. C'est une lueur de volonté politique. Et il y a un effort substantiel, je pense, qui a été consenti aussi pour le fonctionnement des écoles et peut-être le salaire des enseignants. Ça, c'est un problème éternel, mais on peut résoudre ça. On peut résoudre, ce n'est pas impossible. Il faut cultiver cette volonté politique.
Alors,
ça, c'est la première chose. Et le souci de bien faire le travail, considérer le travail comme les protestants de 1900, il y a 500 ans, que le travail était un travail vocation. Donc je travaille pas seulement pour gagner l'argent, mais puisque je dois rendre un service. Il faut de l'argent pour que vous s'habiller. Il faut de l'argent parce qu'il faut se déplacer. Il faut
Merci
de l'argent parce qu'il faut manger. Mais ça ne doit pas être l'objectif final d'intégration. L'objectif final d'intégration.
Merci,
ça doit
professeur.
Être un moyen pour atteindre cet objectif d'intégration finale.
Merci, professeur. Monsieur le ministre Steve Mbikaï, après avoir lancé une telle réflexion, comment vous entrevoyez la suite dans le système éducationnel congolais?
Non, mais je pense que je suis très confiant parce que tout le monde qui a parlé reconnaît qu'il y a des problèmes, il faut le résoudre. Et ça, c'est un secret. Tout le monde est d'accord avec ce qui, mais certains pensent que la procédure peut-être n'est pas bonne, ça n'est pas. Mais l'essentiel, pour moi, est qu'on puisse voir en profondeur comment on peut corriger, parce que le pays est en danger. Je suis le consommateur. En termes de messieurs, les diplômés d'État, je vous dis que c'est catastrophique. Et moi, et même mon pays, pas patriotisme, je lance le débat. Il y a des époques très sévères, qui conversent, mais elles sont moins nombreuses. C'est pas normal qu'un enfant qui vient de cette école ait un diplôme, même diplôme, avec un enfant qui n'a pas étudié du tout et qui est tous avoir être considérés au même niveau. Non, c'est pas tout à fait juste. Alors, j'ai conclu en disant que j'ai continué à prêter que moi, avec mon collègue d'ancien primaire et secondaire et celui de la France professionnelle, qu'on puisse, on va se concentrer sur un an pour arriver à voir cette générale de l'éducation nationale, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si j'ai une fois de pression, les années d'État, c'est une hypothèse, mais je suis visible derrière la lumière.
Merci, Monsieur le Ministre, pour cette conclusion. Jean Bosco Pouna, faut-il remettre le compteur à zéro ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Bon, moi je crois que remettre le compteur à zéro, c'est difficile parce que lorsque nous considérons l'examen d'État, l'évaluation finale, eh bien la formation c'est 12 ans. Donc vous avez les 6 ans primaires, les 6 ans des humanités. Et donc l'enfant est formé pendant beaucoup d'années et ce n'est pas l'examen d'État qui vient confirmer les connaissances de l'élève. Il y a aussi les années de préscolaire. Donc je veux simplement dire que le travail doit être fait au niveau des écoles. Il y en a qui ont parlé de l'école primaire, mais on ne peut pas mettre de côté également l'école secondaire. Mais alors, il y a des problèmes, il y a des entraves. Les entraves majeures, nous tous, nous les savons. Lorsque les ministres parlent, par exemple, des écoles sérieuses, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Les écoles sérieuses sont des écoles où les parents sont contraints à verser plus d'argent. Et donc c'est là qu'on devrait commencer. Le système de prise en charge des enseignants par les ménages pauvres, c'est un système qui met à plat notre système éducatif. Et il faut commencer par là. Il faut que l'État donne les moyens qu'il faut. Et en ce moment-là, nous pensons que nous allons redorer l'image ternie de notre système éducatif. Et le ministre vient de terminer en disant qu'il va avoir une concertation avec ses collègues. Mais je crois que c'est là qu'il devrait commencer. Au lieu de pouvoir jeter en pâture l'examen d'État, ça risque de décourager beaucoup d'élèves, beaucoup de partenaires. Merci beaucoup.
Professeur Massiala Massolo, en guise de conclusion, professeur, bon, vu votre expérience, quels conseils ou quelles recommandations avez-vous à formuler pour la suite?
Je suis heureux qu'au niveau du ministre, je pense que c'est au niveau du gouvernement, il y a une prise de conscience sur la faillite de l'école dans notre pays et qui risque de discréditer même les anciens diplômés et qui risque de remettre en scène la sous-estimation de diplômés congolais.
Merci professeur, c'est par vous que nous terminons cette émission. Jean-Noël Mukondo était à la mise en onde, Donna Madimba à la réalisation, supervision par l'équipe Elamondo, présentation et coordination Alain Rung-Mushinj. Merci de votre attention, au revoir.